voix nue. Toute cette semaine, de lundi à vendredi, Virginie Bloch-Lainé rencontre Raoul Peck. Ce soir, la renaissance de James Baldwin.
Raoul Peck, bonsoir.
Bonsoir.
Nous sommes ce soir encore dans votre bureau à la FEMIS, l'école de cinéma que vous présidez, qui est située à Paris dans le 18e arrondissement. Ce soir, nous allons parler du documentaire remarquable que vous avez réalisé en 2016, qui est sorti en France en 2017, dont le succès à la fois critique et public fut très important, I Am Not Your Negro. Il est construit à partir de notes rédigées par James Baldwin pour la préparation d'un livre qui n'a jamais vu le jour. Baldwin est mort en 1987. Et c'était un livre qui aurait pu ou aurait dû porter sur trois leaders de la lutte pour les droits civiques américains, Malcolm X, Martin Luther King et Medgar Evers. La sœur de Baldwin vous a transmis ses notes. Comment, Raoul Peck, pouvez-vous présenter les sujets multiples de votre film ? C'est un film sur quoi ?
Alors, c'est un film, si je devais le réduire à quelques phrases, c'est la vision de Baldwin sur le mouvement des droits civiques et sur ces trois personnages qui n'ont jamais été réunis dans ce triangle, qui sont trois personnages différents, à des époques différentes de ce mouvement, et qu'on a d'ailleurs longtemps opposé. C'est-à-dire, on a fait croire que Martin Luther King, c'était le sage, le pasteur non-violent, et Malcolm X, c'était le fou furieux raciste et très violent. Or, on a oublié une partie importante de cette histoire, c'est que ces deux hommes se sont de plus en plus rapprochés l'un à l'autre. Et qu'ils avaient fini par comprendre que la lutte pour le droit des Noirs était aussi un piège, et que la lutte, elle devait être plus large que ça. Que le problème aux États-Unis n'est pas un problème de race, mais un problème de classe. Et ils ont commencé à inclure les Blancs pauvres dans leur lutte. Et là, ils sont devenus plus dangereux pour le système, et on les a tous les deux éliminés. Et l'un et l'autre, et Medgar Evers, ont été assassinés. Donc, Baldwin raconte cette histoire, ou plutôt commence par raconter cette histoire, mais va plus loin dans la mesure où il critique un à un les différents niveaux de cette ségrégation de classe. C'est-à-dire, il critique aussi le cinéma américain en tant que pourvoyeur d'idéologie. Il déconstruit les films mythiques d'Hollywood dans leur manière d'amener une certaine idée de l'Amérique, d'ailleurs qui va pas seulement être répandu en Amérique, mais à travers le monde entier, et qui, en fait, veut enterrer le fait que ce pays, ce qu'on appelle très rapidement le rêve américain, s'est construit sur deux génocides. Le génocide des Indiens d'Amérique et l'esclavage. Donc, Baldwin effectue pratiquement une déconstruction totale des sociétés occidentales, pour finir ça, et appelle à l'humanisme de tous. C'est-à-dire, il dépasse les notions réduites de différence de classe, de racisme et tout ça. Et c'est dans ce sens que le film, pour moi, était important. C'est que c'est pas un film sur les Noirs américains. C'est un film sur l'état du monde occidental aujourd'hui.
Lorsque Raoul Peck, vous nous avez parlé cette semaine de votre arrivée à New York, vous n'avez pas parlé de racisme. Est-ce que vous avez ressenti un racisme particulier ? Parce que vous avez un élément de comparaison, c'est votre arrivée à Orléans à l'adolescence.
Alors, pour les États-Unis, bon, en tant qu'enfant, non, on le ressent pas de manière particulière. D'abord, on est dans un milieu noir. À Brooklyn, je suis entouré de Noirs.
Donc, et à l'école ?
À l'école, je me rappelle pas. Il y avait quelques Blancs, mais très très peu. Voilà, la ségrégation aux États-Unis, elle est très claire, surtout dans une grande ville comme New York. On peut vivre toute sa vie sans se frotter l'un à l'autre. Donc, de ce point de vue, voilà, on peut être protégé, surtout enfant. On est protégé. Et quand on allait, par exemple, à Manhattan, où on m'amenait au cinéma ou au théâtre... chacun restait sur son côté, son quant à soi, et puis voilà, c'est très civil. sauf quand il y a un incident quelconque où ça peut dégénérer. Donc on peut, en tant que gamin, passer à côté de beaucoup de choses.
Est-ce qu'à quel moment vous lisez, vous, Baldwin, et qu'est-ce qu'il vous apporte qui est, alors, pour vous, est extraordinaire? Parce que vous
d'abord,
avez...
D'abord, oui. Et encore une fois, la particularité d'être haïtien m'a permis, de toute façon, d'avoir une autre approche du monde. Quand j'arrive en France, je me rappelle ma première... soirée à la cour de récréation et je vois comme ça, je suis seul puisque je connais personne, et je vois comme ça une petite bande qui va un à un vers les nouveaux pour les bizuter. Et moi, en tant qu'haïtien, et la conscience haïtienne est très forte par rapport à ça, le fait que Haïti s'est libéré des armées napoléoniennes en 1804 pour devenir indépendant. C'est que en Haïti, on se dit aucun Français ne peut me battre. Donc, ce qui était bien sûr absurde, puisque j'étais seul et ils étaient une dizaine. Mais ma conscience était tellement forte pour me dire que en aucun cas un petit Français n'est capable de venir me casser la figure. Finalement, c'est ce qui me sauve, puisque ils arrivent vers moi à un moment donné. Et je me rappelle très bien, j'avais un blouson en cuir. J'enlève mon blouson, il se dit, ok, lequel est le premier? Et du coup, tous, ils se sont arrêtés. Et ça, tout de suite, c'était, ah, mais tu viens d'où? Et tout ça, et on a eu une conversation. Et ça s'est très bien passé. Mais c'est vrai que plus tard, je me suis rendu compte que c'était totalement absurde. C'est que s'ils étaient un peu plus voyous, ils m'auraient cassé la gueule et puis c'était fini. Mais tout ça pour dire qu'en Haïti, on a une conscience historique très forte par rapport à sa place dans le monde. Donc, de la même manière, avec mes amis noirs américains, j'ai souvent eu cette discussion de... Parce que eux, ils sont dedans tout le temps. Et ils ont grandi comme ça. Et donc, c'est vrai que ça devient presque maladif, parce que on voit du racisme partout. Et c'est vrai qu'il est partout. Mais on ne peut pas se laisser définir tous les jours par ce racisme. C'est comme si vous, femmes, tous les jours... Vous vous laissez définir par le fait que vous êtes femme. Et vous ne pouvez rien faire d'autre. Vous pouvez pas être journaliste dans votre tête, vous pouvez pas être poète, vous pouvez... Parce que vous êtes tout le temps préoccupé par le regard qu'on jette sur vous. Donc par rapport à mes collègues noirs-américains, parfois on a cette discussion de dire « faites attention, parce que c'est un piège. »
Il répond quoi ?
Le racisme, c'est un piège. Bon, certains s'en rendent compte, mais c'est vrai que dans la colère du moment... Vous n'avez pas le choix, parfois. Ça demande une certaine discipline. Vous savez, aujourd'hui, c'est plus connu, mais cette espèce de racisme silencieux, qui ne dit pas son nom, de micro-racisme, comme on dit, qui sont des moments où l'autre ne voit même pas qu'il a commis un acte ou une réflexion raciste. Mais vous, vous l'avez pris de plein fouet. Et vous restez toute la journée avec cette micro-agression. Mais l'autre n'est même pas au courant. Donc si vous passez vos journées à subir cette micro-agression et les autres s'en foutent, c'est vous qui plongez au bout d'un moment. Donc il faut trouver une parade à ça. Et Baldwin, c'est là l'incroyable force de Baldwin. Baldwin, il retourne le miroir vers celui qui agresse. Il dit, le problème, c'est vous, c'est pas moi. Moi, j'ai aucun problème avec ma tête, avec ma couleur, avec qui je suis. C'est votre regard qui est le problème. Donc, posez-vous la question, pourquoi vous avez ce regard et d'où il vient? Et pourquoi vous en avez besoin, surtout? C'est ce qu'il dit à l'Amérique. Pourquoi avez-vous eu besoin d'inventer le nègre? Et ça, c'est votre problème, c'est votre conscience. Débrouillez-vous avec. Donc c'est extrêmement libérateur. Donc voilà, et dans ce sens, ça s'applique partout, pas seulement aux États-Unis. Ça s'applique en France. En France, y a un tel déni de la question de couleur, de la question de race, de la question du racisme. Comme si la République, une fois pour toutes, avait résolu ces problèmes. Et que s'il y a des résidus, ce sont des accidents. Non. Non, c'est plus grave que ça. Et on continue d'entretenir cet aveuglement. et qui va causer des problèmes plus loin devant. On le voit avec la situation des banlieues, on le voit avec les migrants, etc. On peut pas mettre la tête dans la terre comme une autruche et prétendre que le problème n'existe pas.
Et les États-Unis font autrement maintenant ? Font autrement que la France ?
Non, c'est différent. Mm. C'est différent. Chacun a sa culture, chacun a son mode de gestion de conflit. Mais il y a des choses que je vois en France. Il y a, par exemple, très clairement, il y a des films qui sont produits en France qui ne me font pas rire, mais qui font rire une partie du public français. Ces films-là, si on les avait faits aux États-Unis, les cinémas seraient boycottés. Ils n'auraient pas pu être distribués. C'est là que je dis, c'est facile parfois de regarder vers les États-Unis, de dire waouh, ils sont violents, les policiers tuent les jeunes et tout ça, mais il y a un certain nombre de règles qui ne passent pas, qui font que n'importe quoi ne passe pas. Tandis qu'ici, on les fait passer sur cette espèce de camaraderie, bon vivant, allez, te vexe pas, c'est une blague, etc. Et qui, aux États-Unis, se serait passé tout de suite en violence. Parce que ce serait inacceptable. Donc c'est cette différence qu'on ne voit malheureusement pas en France, et on sous-estime la colère qui existe dans le cœur de beaucoup de Français qui sont nés ici, mais qui ont une autre identité également. Et ça ne va pas, ils vont aller nulle part. Ils sont Français, ils sont ici. Tant qu'on continuera à sous-estimer ou à ne pas voir cette problématique, parce que chaque fois qu'une banlieue ou une partie du territoire se révolte, brûle des voitures ou autres, bon, on prend quelques petites mesurettes, on met un peu d'argent, voilà, on a la paix pour un ou deux ou trois ans. Mais ça ne veut pas dire que le problème, il est réglé. Donc, et c'est dans cette situation, et je suis plutôt inquiet pour l'avenir de cette société, qu'elle est devenue tellement aveugle, elle est tout le temps en train de suivre le prochain petit scandale, la prochaine petite phrase de un tel, et on va en débattre pendant un jour, deux jours, en attendant de trouver la prochaine. Et pendant ce temps, on ne prend pas le recul pour regarder où on en est aujourd'hui, vers quoi on va. Parce que le futur de la France, c'est pas le mandat du président Macron.
Ni un article, ni une tribune publiée
absolument,
dans un quotidien.
D'ailleurs, pour parler de la tribune de Yann Moix, qui a fait beaucoup de bruit et tout ça.
Qui a été publié dans Libération.
Absolument.
En janvier.
Ce genre de récit, ça fait plus de 30 ans que je suis en France. C'est pas nouveau pour moi.
Une tribune sur la politique de Macron envers.
En fait, le traitement de ceux qu'on appelle pudiquement les migrants à Calais. Donc, et la brutalité policière. Il faut le dire, oui, elle existe, la brutalité policière. C'est pas une nouveauté, ni en France, ni ailleurs. Ça ne veut pas dire que tous les policiers sont brutaux. Mais il y a une certaine brutalité qui s'exprime en passant par l'État, donc qui ont l'autorisation d'utiliser cette brutalité, et qui cause beaucoup de dégâts. Parce que ce sont des êtres humains. Et ces êtres humains, ils ont des sentiments, ils ont de la révolte, et un coup que vous portez à quelqu'un, ce coup n'est pas oublié. Donc ça a des conséquences. Et c'est comme ça, on a accumulé ces conséquences et on n'a pas voulu les voir. Donc quand un jeune, il a vu son frère, son grand frère, il est peut-être en troisième génération, et il a vu, il a été témoin de certains vécus. Donc lui, il est un être humain comme vous et moi, il va réagir en être humain. Il va dire, eh ben, puisque je n'existe pas pour tous ces gens, eh ben je vais leur montrer que j'existe. Et là, il peut être prêt à tout. Et il aura raison. Il aura raison. Si vous traitez quelqu'un comme un animal, eh ben il va vous montrer, ben je vais vous montrer que je suis l'animal le plus féroce qui soit. Voilà. Et ce genre de comportement, vous le verrez partout, aux États-Unis, en Suède, en France, partout.
Et est-ce que vous trouvez que l'Allemagne fait moins la politique de l'autruche que la France ?
En Allemagne, c'est différent. C'est différent, il y a d'autres problèmes, il y a des gros problèmes de racisme, mais le mode de gestion est un peu différent, justement, de par la structuration même de la société allemande, de par les instances de négociation, de par, on le voit par rapport aux réformes syndicales ou autres. Les syndicats, on la voit au chapitre, ils sont intégrés au système, ils font partie de l'étage des dirigeants d'une entreprise. Et l'Allemagne est un État fédéral, donc la chancelière n'a pas tous les pouvoirs. Donc il y a moins de centralisation, etc. Donc forcément, il y a des conséquences dans la gestion aussi de problèmes comme avec les gens, les demandeurs d'asile. Donc, bon, mais je vais pas dire que l'un est mieux que l'autre. Mmh. Simplement, il faut analyser chacun à part. Mais je pense que dans des cas de, comment dire, de drame national ou de moments difficiles dans les sociétés, la société allemande aujourd'hui est peut-être beaucoup plus préparée à trouver des pistes de négociation et de sortie de par son histoire récente. D'ailleurs, toutes ces lois et ces modes de fonctionnement ont été installés après l'échec nazisme pour justement empêcher ce type de dérive de pouvoir.
Raoul Peck, votre film a été nommé aux Oscars, oui, mais il n'a pas gagné.
Non.
Quel est le documentaire qui a gagné?
C'est un documentaire qui, en fait, n'est pas un documentaire, mais qui est une mini-série sur O.J. Et qui était, voilà, mais tout le monde savait que O.J. allait gagner.
Ah bon?
Oui, parce que c'est un sujet coqueluche des Américains et surtout d'Hollywood. Donc c'est un peu une revanche aussi. Voilà, mais ce qui est paradoxal, c'est que le film I Am Not Your Negro était en tête de liste partout, sauf aux Oscars, et trois semaines après les Oscars, le règlement a changé, on n'acceptera plus de mini-série dans la section documentaire.
Ah.
Donc voilà. Donc, mais vous savez, c'est pas trop grave que ça. D'abord, la nomination est déjà un titre,
oui,
aux États-Unis, donc que vous utilisez. Et deuxièmement, avoir eu un succès aussi bien critique qu'en salle est assez exceptionnel et ça nous a ouvert toutes les portes à nouveau aux États-Unis, puisque ça faisait quelques années que je travaillais aussi là-bas. Mais ça me permet maintenant de faire un certain nombre de films plus difficiles que je peux faire maintenant. Donc c'est pour moi c'est ceci le plus important.
Comment avez-vous connu la sœur de Baldwin? Comment avez-vous su qu'elle avait des notes inédites?
Alors l'histoire de ce film, c'est une histoire très longue puisque elle a duré 10 ans. C'est le genre de film que vous pouvez pas comme ça faire en l'espace d'une année ou deux. D'ailleurs, mes deux derniers films, Le jeune Karl Marx et I Am Not Your Negro, sont des films qui m'ont tous les deux pris 10 ans et que j'ai fait en parallèle. Et en parallèle de mes autres films comme Assistance Mortelle, etc. Donc, au départ, le film devait être une fiction. Et après de nombreux essais, au bout de 3 ans, je me suis dit voilà, c'est pas la bonne approche, et je vais plutôt faire un documentaire que je pourrais produire moi-même et développer moi-même. Donc pendant ce temps, la rencontre avec la sœur Baldwin s'est faite tout simplement puisqu'il me fallait les droits pour travailler sur ce projet. Donc j'ai écrit à Aux Ayants Droit. Donc et on m'avait averti. Mon avocat à Los Angeles m'a dit, tu sais, il y a aucune chance que tu puisses les avoir parce que parfois ils répondent même pas. D'autres ont essayé d'avoir des droits de ces livres. C'est pratiquement impossible. Donc j'ai écrit quand même. Et 3 jours après, j'ai eu une réponse et on m'invitait à venir à Washington pour les rencontrer. Et là, la personne qui m'ouvre la porte, c'est Gloria Carifa-Smart, qui est la jeune sœur de Baldwin, qui est une dame de plus de 80 ans, mais voilà, qui a un parcours incroyable, elle aussi, et qui m'a, voilà, je lui ai dit, je voulais faire un film, mais je n'étais même pas encore sûr, est-ce que ce serait une fiction ou un documentaire, et que ça prendrait peut-être du temps, etc., mais très rapidement, elle a accepté l'idée, et en fait, elle avait vu mes films, elle avait vu Lumumba, et Lumumba a été un personnage important dans sa vie, elle a voyagé en Afrique, elle connaît, voilà, c'est une Américaine qui a une vision du monde qui est beaucoup plus large, et qui comprenait le travail que je faisais. Donc elle m'a fait confiance, et m'a donné ses droits pendant 10 ans, ce qui est énorme. En général, on vous donne une option pour 2 ans renouvelable exceptionnellement. Et si vous n'avez pas un scénario ou un film d'ici là, vous rendez les droits, puisque vous bloquez tout. Et là, non seulement elle m'a concédé ces droits-là, elle m'a protégé, et ensuite elle me nourrissait régulièrement de documents qu'elle découvrait, puisque dans la même période, elle était en train de rassembler les manuscrits, les dossiers de Baldwin pour les vendre à la bibliothèque publique de New York qui a acheté le fonds Baldwin. Donc elle était tout le temps dans ses caisses et tout ça. Donc un jour elle m'a envoyé donc ce manuscrit d'un livre qui n'a jamais été écrit, qui s'appelle Remember This House. Et quand j'ai lu les notes, voilà, brusquement, j'avais enfin cette entrée que je cherchais dans le film, que je trouvais pas, et qui est, bien entendu, d'essayer de reconstituer ce livre, qui est un livre important pour lui, et qu'il n'a pas pu écrire à cause de la douleur, de tous ces meurtres, de tous ces échecs, etc., et qui était son livre sur l'Amérique. Et donc pour moi, j'ai trouvé la porte d'entrée, et le film est ce livre qu'il n'a jamais pu écrire.
Raoul Peck, la sortie du documentaire, de votre documentaire, I Am Not Your Negro, a eu des conséquences en France sur la publication de livres de Baldwin.
Je pense que Baldwin a été totalement oublié aux États-Unis comme en France, où il a vécu de longues années. Il habitait à Saint-Paul-de-Vence pendant très longtemps. Il est mort à Saint-Paul-de-Vence en 87. Donc non, ça a été pareil aux États-Unis, même si dans certaines universités il est enseigné, mais c'est quelqu'un qu'on avait mis de côté, parfois pour des raisons politiques, tout en exploitant ses idées. Mais une nouvelle génération parlait à sa place. Et le film, en effet, a réveillé tout ça.
Aux États-Unis aussi.
Aux États-Unis également. La vente des livres de Baldwin a été déculpée. C'est Baldwin est dans toutes les discussions et il reprend sa place. Ce qu'on a ouvert là, c'est quelque chose d'extraordinaire. Comme je reçois aussi toutes ces invitations, je sais qu'il y a des colloques, il y a des réunions, il y a des projets, il y a etc. C'est formidable. Et c'était ça l'idée quelque part. Je pense que c'est aussi pour ça que Gloria m'a fait confiance. C'était ça parce que elle s'est rendue compte que ce manque était aussi important pour moi et qu'il fallait ramener Baldwin au centre de la discussion, parce que comme Marx, c'est quelqu'un qui a un rôle fondamental dans la lecture de ce qui se passe aujourd'hui à travers le monde. C'est quelqu'un qui a beaucoup voyagé, qui connaît beaucoup de territoires, beaucoup d'histoires, qui a compris comment fonctionne le politique, etc. Et qui a écrit des choses magistrales et qui sont importantes aujourd'hui pour comprendre ce monde. Donc, il fallait le remettre au centre et je pense que c'est pour ça que j'ai bénéficié de cette solidarité, de cet amour même de Gloria qui m'a permis d'aller au bout de ce travail. Et en France, c'est pareil. Tous les livres qui ont été publiés ici étaient épuisés, on les a pas réédités. Et là, heureusement, je pense que la plupart des maisons d'édition ont relancé la machine. Il y a de nouveaux livres qui sont sortis et de nouveaux projets, y compris de théâtre et autres. Et c'est important, parce que Baldwin, c'est un maillon important de notre histoire contemporaine.
Est-ce que vous vous dites, est-ce que c'est le film Raoul Peck de vous que vous préférez, ce documentaire?
C'est comme si vous demandez à un père de famille
de choisir son enfant. De dire quel est
Par le... contre, je peux dire que c'est mon enfant qui a le plus réussi. au moins ça, on peut le mesurer. Je n'ai jamais eu autant d'entrées au cinéma et dans plusieurs pays. Le film a été vendu sur plus de 70 pays, sorti en salle avec succès dans des endroits aussi différents que la Nouvelle-Zélande, que le Brésil, que l'Espagne, que l'Allemagne. Et c'est vrai que de voir comment Baldwin est accepté et quel impact qu'il a dans tous ces endroits, puisque tous ces endroits relisent le film à partir de leur propre histoire. En Nouvelle-Zélande ou en Australie, c'est clair que la discussion est différente. Qu'en Suède, où il y a eu aussi des discussions, qu'au Brésil, qui dit qu'il n'y a pas de racisme au Brésil. Parce que Baldwin parle de comment on regarde l'autre, quel qu'il soit. Et ça, c'est fondamental. Et on est en plein dedans avec ces mouvements de population sur la planète entière. Donc, il n'y a pas un territoire qui n'est pas concerné, qui ne soit pas concerné. Et ça, c'est incroyable de voir comment il a su relancer cette discussion et sur des bases solides. Parce qu'il est justement, il a une réflexion et un regard solide sur cet état du monde.
Raoul Peck, vous nous avez dit lundi que vous rentriez d'Haïti, où vous avez passé un mois avec Pascal Bonitzer pour écrire sur votre prochain film. Quel en sera le sujet? Est-ce que ce sera une fiction, un documentaire?
Non, ce sera une fiction. Je ne vous dirai pas totalement le thème, mais voilà, c'est encore un de ces sujets difficiles que je ne peux pas m'empêcher de faire. Mais voilà, c'est aussi un personnage qui a été un peu oublié. Et ça touchera à la guerre d'Algérie également. D'accord. Voilà.
Merci Raoul Peck.
Merci à vous.
Fin de cette rencontre de Virginie Bloch-Léné avec Raoul Peck. À voix nue, réalisation Clotilde Pivin, prise de son Andreas Jaffré, coordination Claire Poinsignon. À voix nue s'écoute en ligne et ce podcast sur franceculture.fr.